les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Alexandre Marlier, Stéphanie Chavagne.
Aujourd'hui, donc, comme dossier, on se penche sur le bonheur d'en face. Alors, le bonheur est-il en face, Alex ?
Le bonheur est peut-être en face, effectivement, puisqu'il s'agit d'une série belge de 26 épisodes de 25 minutes diffusée en 1988 sur la chaîne publique belge, la RTBF. Elle a aussi été diffusée en France sur TF1 en 1989 et rediffusée en 1995 en Belgique sur Club RTL, une chaîne du groupe privé RTL. Dans le rôle principal, on retrouve Annie Cordy. Elle incarne Irène Lecoin, une baroudeuse qui se pose à Bruxelles et qui sous-loue les quatre chambres de sa maison afin de ne pas être seule. Patricia Hyde, Martin Wilkey, Michel Cassen et Alain Lempoul jouent les quatre étudiants qu'elle héberge. La série est présentée par la RTBF comme le premier feuilleton entièrement tourné à Bruxelles. Il a d'ailleurs bien failli être le seul puisqu'il a fallu attendre 20 ans pour que la chaîne en produise une autre, 7e ciel Belgique. Pour nous en parler aujourd'hui, Sarah Sepulcre.
Bonjour.
Alors Sarah, c'est le retour de la baroudeuse à Bruxelles.
Eh ben oui, c'est ça en fait le pitch de départ de cette série, ce qui explique pas mal de choses en fait. Irène Lecoin donc est reporter photographe, ça on le sait grâce au générique, mais je vous en parlerai tantôt parce qu'on la trimballe un peu partout autour du monde. Et donc dans le pilote, elle atterrit à Bruxelles littéralement avec un avion de la Sabena d'ailleurs, l'ancienne compagnie aérienne belge. D'ailleurs moi personnellement c'est la seule image que j'aime bien dans cette série.
La Madeleine de Proust.
Oui, c'est un peu ça. Donc c'est la seule image que j'aime bien. Et donc elle rencontre son notaire qui est venu la chercher à l'aéroport et qui la trimballe dans tout Bruxelles pour l'emmener dans une maison dont elle a hérité de tante Henriette. Et en fait, vu le décor, ça ressemble plutôt à Uccle, mais le bon endroit de Uccle, c'est-à-dire qu'il y a un très grand jardin, c'est une rue avec des arbres un peu partout, donc c'est pas le Bruxelles marolle. Et donc elle s'y installe, mais elle s'y ennuie très rapidement parce qu'elle passe une vie trépidante, elle court autour du monde, elle fait des photographies des endroits où il se passe des choses, à une maison à Uccle. On comprend qu'elle déprime un peu. Et effectivement, elle déprime. Et donc, elle décide de louer ses chambres à des étudiants pour que ça bouge un peu, ce que son notaire comprend très mal parce que manifestement, lui, il n'aime pas trop quand ça bouge. Alors, les étudiants en question, il y a d'abord Elisabeth, qui est la première à se présenter, qui est une comédienne et qui vient juste de rater une audition. Et donc, elle passe son temps à pleurer dans le premier épisode et à réciter les phrases qu'elle n'a pas su réciter devant son jury.
Si mes souvenirs sont bons, ses pleurs sont d'ailleurs très crédibles.
Rien n'est crédible dans cette série, autant le dire tout de suite. Mais c'est vrai que les pleurs ne sont pas très crédibles. Et la seule chose qu'elle a su sortir devant le jury de casting, c'était « Miaou ». Ça, c'est quand même une blague importante
Malbara
de cet épisode.
Pour ça, pour sa carrière.
Et donc elle vient avec une copine qui s'appelle Frédéric et au début Irène est un peu décontenancée parce qu'elle voulait pas du tout louer à des filles. Elle avait promis à la maman de Jean-Philippe Beaulieu qu'elle ne louerait qu'à des garçons, mais devant le désappointement d'Elisabeth, elle accepte. Au même moment arrive ce Jean-Philippe Beaulieu en question qui en fait n'est pas Jean-Philippe Beaulieu, qui est un autre futur habitant de la maison qui s'appelle Robert, un beau parleur, très arnaqueur dont on ne sait rien du tout sauf qu'il ment bien parce qu'il se fait passer pour Jean-Philippe Beaulieu. À ce moment-là, évidemment, arrive le vrai Jean-Philippe Beaulieu avec sa maman et son papa. Ils sont de Dinan d'ailleurs. C'est une famille où on se vouvoie les uns les autres avec une maman très protectrice, tu vois, c'est un petit garçon à sa maman comme ça qui vient faire sciences politiques à Bruxelles. Et donc la maman ne veut absolument pas que son fils soit mélangé avec des filles. Et donc, il y a tout un quiproquo entre les filles qu'on enferme dans une chambre, les parents qu'on fait passer dans le couloir, les portes qui claquent, les filles et les parents qui se rencontrent, et la maman qui ne sait pas dire le mot « fille » et qui dit « mais ce sont des... » Enfin, voyez un peu le genre.
Des portes qui claquent, des quiproquos, mais les filles d'à côté n'ont rien inventé, en fait.
Non. Sauf que je me demande si c'est pas meilleur, les filles d'à côté, au niveau du scénario. Donc, ça vous situe un peu le niveau. Ça vous donne déjà un petit peu mon avis sur la question. Enfin, bref, fin du pilote. Irène accepte d'héberger tout le monde, y compris Robert, dont on ne sait toujours pas ce qu'il fout là, ce qu'il fait dans la vie, qui il est, pourquoi il ment, etc., etc. Il faut attendre le deuxième épisode pour qu'en fait, Frédéric, l'ami d'Isabelle, avec qui il était arrivé au début, se fait mettre à la porte de son propre appartement parce que, en fait, elle est écrivain la nuit et que sa machine à écrire fait trop de bruit. Donc, elle s'est fait foutre à la porte de son appartement.
Ça nous replonge dans l'époque, hein, parce que maintenant, les claviers d'ordi sont un peu quand même plus calmes.
Mais c'est aussi, tu vois, ça montre bien, et c'est pour ça que je passe par ce genre de détails, ça montre bien que les scénarios tiennent aussi sur pas vraiment grand-chose. Donc, bref. Donc, sa machine à écrire fait trop de bruit, mais apparemment, ça n'embête pas trop Irène qui décide de l'héberger. Et donc, elle doit réinventer toute la maison parce qu'il n'y avait pas assez de chambres et donc ils aménagent le grenier. Irène va dormir dans le grenier Et donc, Frédéric peut habiter. Et donc, à la fin du deuxième épisode, on a la maisonnée au complet. Frédéric, Isabelle, Robert, Jean-Philippe et Irène. Le casting est donc complet. Avec deux filles, deux garçons. Vous avez entendu une comédienne, une vendeuse la journée mais qui écrit des polars la nuit. Un type dont on sait pas grand-chose sauf qu'il est un peu roublard. Et Jean-Philippe Beaulieu qui est le petit garçon à sa maman. C'est finalement une promesse de quelques épisodes ou en couleur ou en tout cas de possibilités de rencontre de ces personnages assez intéressantes. Il y a quelques autres personnages à côté de ça qui sont plus ou moins récurrents. Le notaire, par exemple, revient quelques fois. On a l'ancien rédacteur en chef de Irène qui s'appelle Henri qui passe quelques fois. La maman de Jean-Philippe passe quelques fois. Donc on a quelques personnages en plus, mais en gros, tout se passe autour de ces cinq personnes-là.
Mais alors, tu évoques quand même qu'il y a deux garçons, deux filles. Ça veut dire qu'il y a des histoires de coucherie dans Le Bonheur d'en face ?
En tout cas,
j'ai pas vu la même série, moi.
Non, Coucherie, c'est 20 années plus tard, tu vois. Là, on est dans les années 80. Mais en tout cas, on sent que, par exemple, Frédéric semble un peu intéressé par Jean-Philippe, donc il y aurait des possibilités d'eux, mais faut pas exagérer non plus. Voilà, c'est comme si, je sais pas, moi, il y avait des déshabillés dans Maggie. Non, c'est pas possible. Alors, je vous propose d'écouter un petit extrait. C'est l'épisode 3, c'est la catastrophe complète. Tout le monde est blessé. Robert a une vertèbre qui a bougé, Frédéric saigne du nez, Jean-Philippe s'est électrocuté et Elisabeth, que tout le monde surnomme Zaza, s'est brûlée avec du thé. Bref, c'est le moment où Irène décide de faire une compresse au whisky sur les brûlures d'Elisabeth parce qu'il paraît que ça marche très bien et où elles en ont fait à la fois un usage externe et un usage interne et où elles sont un peu ivres. Alors je vous conseille de faire vraiment très très attention. Parce que vous allez voir, le rythme de dialogue va probablement vous étonner.
C'est pas mauvais non plus en usage interne. Tu as parfaitement raison. Non seulement c'est bon, mais c'est fort.
Ah, je te crois. C'est plus fort que le thé du matin. Parce que le thé du matin, je peux en boire deux tasses. Mais celui-ci, ça m'étonnerait.
Voilà. Avec ça, demain, il n'y paraîtra plus.
C'est vite.
Tu ne me crois pas ?
Ah ben, je croyais qu'il fallait attendre 2-3 jours avant que les mains ne se dessèchent et qu'elles finissent par tomber.
Ne l'écoute pas. C'est une recette du Major Swinderson que j'ai connue aux Philippines. Il m'a juré qu'avec une compresse au whisky, les brûlures disparaissaient comme par miracle.
Oh, je suis bien contente. Il n'y aura plus de brûlures.
Si, si. Mais du côté de l'estomac.
Et pour moi, vous êtes sûr que c'est efficace ?
Mais oui.
Avec un tel verre dans le nez, faut pas t'attendre à ce qu'il diminue de volume.
C'est le remède idéal, je vous dis. Ça sert pour tout.
Oh, alors je m'en vais en chercher une caisse à la pharmacie.
Si tu me donnais cette bouteille, hein, il y a des doses à ne pas dépasser.
Très juste. Ils l'ont mise où, cette posologie ?
Voilà. Et maintenant, retour à la case départ. On en termine avec Robert.
Pourquoi moi ? Parce que je suis le seul à pas pouvoir me défiler, hein ? Méchante !
Jean-Philippe, j'espère que tu pourras donner un petit coup de main à Frédéric.
Oh, je sens que je vais me remettre à chanter, ça va pas tarder.
Je vais essayer, mais je me sens encore un peu faible.
Moi, j'ai ce qu'il te faut. Ça, c'est fort.
En général, l'alcool et moi, on fait pas très bon ménage.
Juste une gorgée, après ça, tu verras, ça ira les doigts dans le nez.
Oh, qu'est-ce que je raconte ?
Juste une gorgée.
Allez les jeunes, chacun son poste. Attention, on y va. Un, deux.
Donc ici, on a le temps de rire, d'analyser notre rire et de rire de notre propre rire.
En fait, on a le temps de pas rire. C'est pas drôle.
Moi, je dis, les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Cardwell.
C'est pas gentil pour Morane. En fait, j'ai passé cet extrait pour ça, c'est parce qu'on sent que tout tient sur le dialogue. C'est un rire de gag et de mots, mais... Enfin, ça prend pas, quoi. Enfin, les jeux de mots sont pas si mauvais que ça en soi, mais je crois qu'il y a effectivement un problème de rythme, c'est ce que je disais avant.
Je crois qu'ils étaient drôles dans les années 50, les jeux de mots, en fait.
C'est les années 80, on est mal barre, quand même. Or, il y a un des problèmes, c'est que tout se déroule dans la maison. C'est évidemment le principe, puisqu'on est face à un endroit clos. Pour Friends, ça marche bien, mais ici, ça marche pas, parce que ça cadre un petit peu trop les intrigues. Et très souvent, en fait, ce sont les intrigues qui viennent aux personnages, et non pas les personnages qui vont aux intrigues, ce qui signifie qu'on doit amener dans cette maison tout ce qui est nécessaire au scénario du jour.
Donc ça voudrait dire en fait que la RTBF a réinventé la sitcom avant les Américains et Friends.
Oui, mais heureusement que les Américains l'ont inventé pour du vrai après, sinon on n'était quand même pas arrivé.
Et ça veut dire aussi que quand quatre personnes se blessent, elles se blessent toutes les quatre dans la maison, plus ou moins au même moment.
Et oui, et il y a une explication absolument logique à tout ça. Tu vois, par exemple, dans cet extrait-là, justement, il doit faire des travaux, donc il tombe de l'échelle, il se casse la vertèbre. Et justement, parce que les travaux n'étaient pas finis, l'autre essaye d'allumer la lampe et s'électrocute. Tu vois, tout est lié, et quand Irène essaye de bouger sa vertèbre, à ce moment-là, elle fait un faux mouvement et elle casse le nez de l'autre. Donc tout est absolument lié, mais c'est effectivement un petit peu gros des fois. Donc ça limite déjà beaucoup les scénarios en tant que tels. C'est par exemple Jean-Philippe qui ne sait pas étudier parce qu'il y a trop de bruit. C'est Irène, dont le rédacteur en chef a des problèmes financiers pour le journal, qui décide de vendre ses souvenirs de reportage, mais c'est donc le journal qui vient à elle pour l'interviewer à la maison. Enfin, vous voyez un peu le genre de choses. Ce qui veut dire qu'on ne voit jamais Elisabeth jouer une pièce de théâtre, on ne voit jamais Jean-Philippe aller au cours, etc., etc. Donc vous voyez un peu le genre de choses qu'il a dedans. Ce qui veut dire qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas la RTBF qui a inventé une sitcom, parce qu'on peut pas parler de sitcom. Moi, je parlerais plutôt de séries de vaudeville, avec tout ce que ça comporte de portes qui claquent, de quiproquos et de jeux de mots, mais avec aussi toutes les limites du genre du vaudeville. Vaudeville a la seule différence qu'il n'y a pas d'histoire d'amour triangulaire comme on a généralement dans le vaudeville, où les amants se cachent dans le placard. Ici, c'est pas toujours ça. Avec un humour qui est très souvent tiré par les cheveux, par exemple, dans le pilote, elle arrive donc à l'aéroport, le notaire vient la chercher, et on se sent obligé de filmer ce voyage entre l'aéroport et la maison, et d'en faire quelque chose de drôle. Donc le notaire roule comme un malade, et justifie ça par le fait qu'il était chasseur, pilote de chasse avant, d'accord, ok. Et voilà, ça ne mène nulle part, c'est juste Irène qui est assise sur son fauteuil et c'est l'occasion d'un échange, d'un petit dialogue de 2-3 phrases supposées drôles. Voilà, ça ne mène nulle part.
Plaisir du bon mot, en fait.
Oui, mais sauf que c'est un bon mot. On a parfois dans les épisodes les impressions qu'on a fait une scène avec des jeux de mots autour d'un événement qui est un peu secondaire ou annexe, parce que souvent les scénarios se résument à pas grand-chose, pour un épisode en tout cas. Et on a l'impression qu'on tire vraiment sur la ficelle. Donc c'est bon mot, mais c'est bon mot qui ne mène nulle part. Et donc ça tombe un peu à plat à ce niveau-là. Bref, on en rajoute tout le temps. Et ça fait en plus vaudeville dans la manière de le jouer, dans la manière d'écrire, dans la manière d'amener ses gags en question. Ça fonctionne probablement en théâtre. Et ça fonctionne quand même pas très très bien à la télévision en tant que tel. Pourquoi ils ont fait ça et pourquoi ces problèmes de scénario sont importants? Moi, j'y ai trouvé et j'ai une hypothèse. Les acteurs, tu l'as dit tout à l'heure, c'est Patricia Hyde, Michel Cassen, Alain Lempoule et Martine Wilkay, qui, soit dit en passant, et puis je vais aller vite là-dessus, n'ont pas fait grand-chose à part Le Bonheur d'en face. Ils ont fait beaucoup de téléfilms et beaucoup de théâtre, ça c'est vrai. Patricia Hyde et Michel Cassen, qui sont époux, co-dirigent le théâtre à Bruxelles qui s'appelle Le Public. Michel Cassen a joué, par exemple, dans Les Dieux du Carnage, une pièce de Yasmina Reza, mais à part ça, il n'y a pas énormément de choses qui ont été faites. Mais bon, bref. Donc ces comédiens-là, en fait, sont aussi, vous allez l'entendre, producteurs délégués, c'est Alain et Michel Lempoule. Collaborateurs de production, c'est Martine Wilkay et Michel Cassen. Dans les scénaristes, on retrouve les noms des quatre comédiens et le réalisateur qui est Teferat. Et Teferat, le réalisateur, est aussi le superviseur du dialogue. En clair, ça tourne en rond et personne n'était là pour leur dire que c'était pas bon. C'est-à-dire que c'est une production qui s'est faite à 4 ou 5 personnes. On est adolescent, on décide d'écrire un livre ou d'écrire une pièce, on fait ça entre nous et puis nous on trouve ça drôle sur le moment, mais c'est pas nécessairement drôle. Voilà.
Et on base ça aussi en fait beaucoup sur la personnalité de l'actrice principale,
ouais, j'allais
Annie Cordy.
Le dire. Voilà. Alors on base effectivement beaucoup de choses sur Annie Cordy, ça se voit dans le générique, ça se voit dans le scénario, ça se voit dans la manière dont on a arrangé les choses. On a manifestement beaucoup parié sur sa personnalité. C'est vrai qu'il est dynamique et sa célébrité, parce que jusque dans le générique, ce sont des images d'Annie Cordy avec Sheila, avec Jacques Chirac, etc. Donc, pour faire passer ce personnage d'Irène Lecoin, on se base beaucoup sur Annie Cordy. Mais même Annie Cordy est un peu... on la sent pas au comble de sa forme, en tout cas dans cette série. Moi, c'est vrai que j'avais une image plus pétillante et drôle d'Annie Cordy, et que dans cette série, elle est parfois un peu pathétique, soyons clairs.
Un peu empruntée aussi, peut-être.
Oui, pathétique.
Et finalement, elle est le seul élément extérieur à toute cette organisation.
Elle a participé et n'est nulle part dans les noms des producteurs, réalisateurs, scénaristes. Bizarrement, parce que c'est vrai qu'on aurait pu l'utiliser aussi à ce niveau-là, mais ça n'est pas le cas.
Donc dans cette série, le générique, la série en tant que telle, il y a une constante, c'est un manque de rythme.
Je te vois y arriver. Oui, et moi j'étais bizarrement étonnée par le fait que même la chanson du générique est surjoué. On a l'impression qu'Annie Cordy articule bien tous les mots et tout ça. Et moi, je me souvenais de Tata Yo-Yo, j'avais quand même l'impression que c'était plus dynamique que ça, quoi. Donc, effectivement. En quelques mots, donc, le générique présente principalement Irène, le reporter de guerre. C'est-à-dire qu'on la voit sur le terrain avec son appareil photo, dans la jungle, face à des guerrieros, manifestement sud-américains. Elle atterrit habillée pour les grands froids dans un pays où manifestement ce sont des jeunes femmes qui lui apportent des colliers de fleurs et donc il y a de temps en temps des quiproquos déjà qui amènent un peu le côté humoristique. Et puis on a ces fameuses images d'Annie Cordy avec des célébrités. Alors, je me souviens plus très bien de qui il y a, mais je me souviens de Jacques Chirac et de Sheila par exemple. On confond donc le personnage Annie Cordy et Irène Lecoin en même temps. Et donc ça se termine par son arrivée à Bruxelles. Dans le premier épisode, l'épisode se suit directement, c'est-à-dire que le notaire arrive suite à la fin du générique. Dans les autres épisodes, les quatre comédiens sont présentés à la fin de l'arrivée d'Annie Cordy à Bruxelles. Et ça se termine sur la maison. Et il est inscrit le bonheur d'en face. Donc voilà. Je ne sais pas si à l'époque, c'était déjà très courant de faire un premier générique différent des autres, mais c'était le cas dans celui-là. Donc Annie Cordy, c'est ça aussi que je disais tout à l'heure. On voit bien quel est le centre des choses. C'est que ce générique, effectivement, présente quelque chose qui n'a rien à voir avec le reste des scénarios.
Il y a une chose dont tu n'as pas parlé, c'est des décors. Moi, j'ai un souvenir de ces décors. On prend ceux du miel et les abeilles, on enlève le côté flashy et on y est plus ou moins.
Écoute, moi, j'étais très perturbée. J'espère qu'elle n'écoute pas l'émission. Ça m'a fait penser à une maison d'une de mes grandes tantes, tu vois, très, très années 80, très mauvais goût, avec des meubles un peu en toc, comme ça, la table qui veut faire faux marbre.
Même les fenêtres font toc.
Oui, j'ai mis ça sur le compte des années 80, moi, personnellement. Mais effectivement, ça donne... Il faudrait effectivement se replacer dans l'époque. Moi, je me souviens plus, je l'ai vu quand j'étais petite, hein, mais je me souviens plus. Mais
moi, j'avais l'impression que les décors de Maggie ou les décors de Vivement Lundi étaient un peu plus crédibles.
Oui, je sais pas, mais en tout cas, moi, je me dis, bon, allez, est-ce qu'à l'époque, c'était ça, une super maison à Bruxelles? En tout cas, quand tu regardes maintenant, c'est difficile un petit peu à croire.
En fait, ça rejoint concrètement ce que tu disais tout à l'heure, même le décor fait décor de théâtre.
Ah bah oui, il manque le mur. Ben ça, on est habitué au sitcom, mais on est face à un salon, par exemple, dans lequel il y a plusieurs portes d'entrée, idem dans la cuisine, donc on sait que ça peut...
Pouvoir claquer en même temps plusieurs portes.
Oui, tout à fait.
La solution est simple. Nous allons faire face, traverser la rue et retaper cette maison, tous ensemble.
Retaper ? Retaper quoi ? Il n'y a rien à retaper.
Henri, je t'en prie.
Mais Henri a raison, Irène. Il n'y a rien à faire. Que nos valises.
C'est une vraie ruine.
Écoutez-moi bien, les enfants. Nous avons vécu ces derniers mois comme une véritable famille. Tout ça grâce à cette maison. Nous l'avons faite tous les cinq, cette famille un peu spéciale. Et je vous jure qu'elle continuera. Moi, en tout cas, j'ai besoin de mes locataires. Ils sont ma vie, ma raison de vivre. Et non, d'une pipe, ce n'est pas une erreur de cousine qui va tout faire capoter. Vous êtes prêts à partir aux quatre coins? Eh bien, pas moi! Je reste, là-bas, en face. Abandonnez-moi, si vous voulez. Je nous vois tous les cinq, chacun dans notre coin. Quelle bêtise, alors que nous pourrions rester tous ensemble. Qu'est-ce qui peut nous faire peur à nous cinq? Rien. Et surtout pas quelques murs lézardés et quelques planches pourries.
Donc, si je comprends bien... Tu veux nous avoir encore sur le dos?
Mais oui, bien sûr. Tout simplement pour que le bonheur continue. En face!
Alors, je vais vous parler de la fin, parce que j'imagine que vous n'allez pas trop m'en vouloir de parler de la fin.
Tu vas nous spoiler sur le bonheur d'en face.
Oui, voilà, mais je crois que c'est pas grave.
C'est pour expliquer le titre, en fait.
Oui, c'est ça. Alors, le 26e épisode, qui est donc le dernier, et c'était prévu comme tel, parce que c'est une vraie clôture, entre guillemets, c'est l'anniversaire d'Irène. Les quatre jeunes font semblant de l'avoir oublié pour lui préparer une surprise. Voyez un peu le côté téléphoné des scénarios. Et d'ailleurs, et ça, c'est très drôle, le moment où ils offrent leur cadeau, on a l'impression que c'est des enfants qui offrent les cadeaux de fête des mères à leur maman. Donc, ils sont censés être étudiants, mais ils ont des comportements complètement enfantins, mais ils ont l'air d'avoir 30 ans. C'est ça qui est assez drôle.
J'aurais Annie Cordy comme logeuse, peut-être que je réagirais comme ça aussi.
Bon, bah, tant pis pour toi. Hein. Chacun fait sa vie comme il veut. Hein. Donc, c'est son anniversaire, on lui fait une petite surprise, mais arrive le notaire qui est complètement bouleversé, tellement bouleversé qu'il a fait un accident. Il est rentré dans une benne à ordures. Et en fait, il est bouleversé parce qu'il s'est complètement trompé d'héritage. Tante Henriette avait deux personnes qui allaient hériter de sa fortune. Il y a deux maisons, celle dans laquelle Irène a emménagé et qui en fait fait revenir à sa cousine Hélène. Et la maison d'en face, qui est une véritable ruine. Et donc, pendant son anniversaire, il lui annonce que sa maison n'est pas sa maison et qu'elle a en fait hérité de la maison d'en face. On a droit à un véritable discours de clôture sur le fait qu'on va retaper la maison d'en face ensemble. Et ça va être super parce qu'on a une famille, donc ne m'abandonnez pas les jeunes. Et donc, le bonheur est en face, parce que si le bonheur est ici, si on reste ensemble, le bonheur sera en face aussi. Donc, oui, comme c'est beau. C'est un peu guimauve. En fait, il y a 27 épisodes, hein. Parce qu'il y avait un bêtisier qui a été prévu par la chaîne et qui a été diffusé en 27e semaine, qui fait le même temps d'ailleurs, et qui fait très années 80 lui aussi d'ailleurs. C'était l'époque où il fallait encore qu'on explique ce que c'est un bêtisier en faisant le bêtisier lui-même, voyez, un peu genre.
N'empêche, c'est impressionnant, parce que ça veut dire que dès le début, ils savaient comment ça allait terminer, le bonheur d'en face.
Oui, c'est une série qui était manifestement pas prévue pour durer deux saisons, à moins de peut-être transférer les choses dans la maison d'en face, avec des nouvelles portes qui claquent. Et avec un nouveau salon vaudevillesque. Alors, bon, vous l'avez compris, c'est quand même une relative mauvaise redécouverte. Personnellement, je l'avais vu quand j'étais petite et j'avais pas un aussi mauvais souvenir que ça. Donc, j'ai été assez étonnée. C'est bien la preuve que parfois, il vaut mieux pas revoir les choses. Hein. J'ai été assez étonnée, c'est vrai. Et en fait, ils ont ressorti le DVD 20 ans après pour les 20 ans de cette série qui, effectivement, a été une grande première pour la RTBF et qui a failli rester, d'ailleurs, une unique série belge. J'imagine qu'ils l'ont aussi peut-être fait au moment où ils ont plus ou moins lancé Septième Ciel et donc ça permettait de relancer un peu ce concept série. Bref, on a parlé plusieurs fois des années 80 et effectivement, ça a assez mal vieilli. Donc je vous ai déjà parlé de la lenteur du scénario, du côté vaudeville qui marche peut-être dans des séries comme Maggie, etc. Mais qui là, par contre, ne marche pas du tout et est difficile à avaler maintenant, ça il faut quand même être clair. Je vous ai aussi parlé de cet humour qu'on rajoute à la truelle, mais ici je crois que c'est même carrément la bétonneuse si vous voulez mon avis, avec des rires préenregistrés. Alors les rires préenregistrés c'est toujours compliqué, mais quand ils ont préenregistré trois personnes qui rient, c'est encore plus compliqué. Enfin, je veux dire, à l'époque, manifestement, on ne savait pas multiplier les rires à l'infini. Et donc là, parfois, ça sent quand même les trois qui rigolent. Quoi. Enfin, je ne sais pas si c'était le perchman, le caméraman et la
avis,
script.
À mon avis, ça devait être les acteurs qui, en tant que réalisateurs, s'étaient enregistrés à rire.
Peut-être. Dans le bêtisier, en fait, des fois, on a l'impression que c'est les mêmes rires, sauf que c'est donc l'équipe technique qui se marre parce qu'ils sont en train de se foirer. Donc c'est là que je me suis dit, mais si ça tombe, c'était pas préenregistré, c'était juste l'équipe qui rigole. Donc bref, soit. Les personnages aussi sont un peu bofs. Donc déjà, le fait que les comédiens soient manifestement trop vieux pour être des étudiants, c'est un peu compliqué, ou des jeunes adultes, parce qu'ils sont pas tous étudiants, mais en plus, je vous l'ai dit, ils se comportent comme des enfants, donc ça donne parfois une impression très bizarre. On a l'impression qu'ils avaient des possibilités de scénario malgré tout, malgré le cadre limité dans lequel ils étaient, et qu'ils en font pas grand-chose. Mais en plus, ces personnages sont pas accrocheurs. On connaît rien d'eux, à part les situations de gag. Peut-être qu'à l'époque, ça marchait, mais aujourd'hui, on est habitué à avoir une sitcom comme Friends, par exemple, dans laquelle on a, oui, des situations comédies, mais on a aussi tout un background du côté des personnages que là, on n'a pas. Ils jouent en plus comme au théâtre. C'est normal, ce sont des comédiens de théâtre, mais c'est bien la preuve que ça ne fonctionne pas. Et même Annie Cordy n'est pas très très bonne. Ça, ça a été quand même quelque chose auquel je ne m'attendais pas nécessairement, mais parce que je l'ai déjà vu ailleurs, et c'est pas nécessairement une mauvaise comédienne. Mais on attend 3 secondes avant de dire la phrase suivante, effectivement, pour que la pièce tombe, c'est pas toujours génial. À côté de ça, je vous l'ai dit, le décor, ça ressemble à la maison d'une de mes grandes tantes, donc c'est très mauvais goût. Les fringues, années 80, poussées à l'extrême. Alors, je sais, les années 80, bon, voilà. Aujourd'hui, on dit que la mode est cyclique et que ça revient, mais c'est bien la preuve que tout ne revient pas, et heureusement. Parce que quand même, les fringues imprimées, les pantalons taille haute, les pulls Mickey et je sais pas quoi, les pantalons à carreaux surtout, non. Les coiffures, enfin ceci dit, si vous êtes étudiante coiffeuse et que vous avez envie de vous replonger dans l'époque, ça vaut peut-être la peine, mais bon, soit. Et je vous le disais, même le bêtisier fin années 80, puisqu'on explique en long et en large que c'est qu'un bêtisier, etc., etc. Bref, je vous conseille le bonheur d'en face, uniquement si vous êtes une fan d'Annie Cordy, si vous êtes une fan des chouchous jaunes ou des salopettes roses, ou bien si vous êtes ivre, ou bien si vous êtes doté d'un 36 millionième sens de l'humour au 36 millionième degré.
Peut-être qu'avec la fumette, ça marche aussi.
Voilà, mais autrement, Je vous le conseille pas nécessairement et je suis pas vraiment sûre que ça soit la pièce maîtresse de votre DVD tech. Surtout qu'il est saumon le coffret, donc déjà même ça, ça donne pas envie.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.